Place maintenant au journal d'Haïti et des Amériques. Rendez-vous signé Michael Ponge. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 10h10 à Santiago. Le président chilien sur la sellette. Les députés du pays donnent leur feu vert à la destitution de Sebastián Piñera. On retrouve notre correspondante sur place. On ira aussi en Argentine aujourd'hui alors que se poursuit la COP26. En Écosse, la ville de Rosario a, elle, trouvé la solution pour concilier les luttes contre le changement climatique et les inégalités. Nous retrouverons, comme chaque mardi, Godson Pierre, notre confrère d'Alter Press à Port-au-Prince. Et puis quand le bâtiment tout va, eh bien en Guadeloupe, ça ne va pas fort. Benoît Ferrand, c'est à la une de votre journal.
Ça ne va pas fort du tout, en effet. C'est en tout cas la crainte exprimée par des professionnels du secteur en Guadeloupe qui affirment que de nombreuses entreprises vont purement et simplement, et très bientôt, mettre la clé sous la porte.
Rendez-vous dans 15 minutes, Benoît. Bienvenue à tous. À 11 jours de l'élection présidentielle qui élira son successeur, Sebastián Piñera finira-t-il au moins son mandat? Le chef de l'État chilien dans la tourmente depuis les révélations des Pandora Papers. Nommé dans cette vaste enquête du consortium international des journalistes, Sebastián Piñera est mis en cause dans la vente controversée d'une compagnie minière réalisée dans un paradis fiscal. Dès ces révélations faites, son opposition de gauche avait enclenché une procédure de destitution. Eh bien, nous y voilà. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Correspondante de RFI en direct de Santiago, Justine, les députés viennent de donner leur feu vert à cette destitution.
Oui, après une journée marathon, près de 21 heures de débat au Parlement, les députés ont voté sur le fil pour la destitution du président Piñera. Une première au Chili, dans le cas d'un chef de l'État. Le milliardaire de droite est mis en examen aussi pour corruption et fraude fiscale après la vente par ses enfants d'un projet minier en 2010, quand il était au début de son premier mandat. Or, le contrat prévoyait que le site où devait s'installer le projet minier ne pouvait pas être déclaré zone naturelle protégée, une décision qui relevait alors du président lui-même, un conflit d'intérêts flagrant selon l'opposition de gauche.
Et jusqu'à minuit hier soir, Justine, il manquait une et une seule voix au Parlement pour approuver cette destitution.
Oui, car le député de gauche Gabriel Boric, qui est aussi favori de l'élection présidentielle pour l'instant, a attrapé le Covid et plusieurs parlementaires de son camp étaient cas contact. Par exemple, son ami, le député Giorgio Jackson, qui devait rester à l'isolement jusqu'à minuit lundi soir. Les chaînes de télévision chiliennes l'ont filmé au volant entre chez lui à Santiago et le congrès à Valparaiso où il est arrivé à temps pour voter. Tout cela grâce à un député socialiste qui a parlé pendant 15 heures d'affilée, un record ici, pour retarder donc l'heure du vote. L'avenir du président est désormais entre les mains du Sénat, mais il manque une poignée de voix à l'opposition pour confirmer la destitution de Sebastián Piñera.
Et ce vote du Sénat qui pourrait avoir lieu vendredi. Jusque-là, le président a interdiction de sortir du pays. Justine Fontaine en direct avec nous de Santiago. Merci, le Chili qui votera, on le rappelle, donc pour sa présidentielle le 21 novembre prochain. Scandale, accusation et démission, on est maintenant au Pérou. Bonjour à vous, Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Le Pérou, le ministre de la Défense, fait ses valises empêtrées dans une affaire de promotion de responsables proches du gouvernement. Il démissionne.
Oui, c'est à la une de la presse nationale, Michael. Il y a 4 jours, le président de gauche, Pedro Castillo, a destitué le commandant de l'armée, le général Vizcarra, et le chef de l'armée de l'air. Les deux avaient refusé de céder à la pression du président et du ministre de la Défense pour promouvoir des personnes proche du gouvernement non qualifié pour les fonctions au sein de l'armée. Dans le journal Pérou 21, l'ex-général Vizcarra a décrit la réunion avec le président. Je lui ai dit que c'était impossible d'octroyer des postes à des personnes qui ne font pas partie de la hiérarchie militaire, mais il voulait quand même savoir comment on pourrait y parvenir. Le journal El Comercio critique vivement l'attitude du président Castillo et de son ministre de la Défense. Leur tentative d'influencer ces processus de décision de l'armée est préoccupante. C'est un acte contre les institutions du pays, écrit El Comercio. Pour l'instant, Pedro Castillo n'a pas encore accepté la démission de son ministre de la Défense. La semaine dernière, en tout cas, il avait déjà perdu, vous l'avez dit, son ministre de l'Intérieur, qui a démissionné après avoir organisé une fête chez lui en violation flagrante des mesures anti-Covid au Pérou.
Il ne fait pas bon d'être ministre au Pérou en ce moment. On en a beaucoup parlé hier à Rime, la présidentielle au Nicaragua remportée sans surprise par le sortant et son épouse, Daniel Ortega, Rosario Murillo, scrutin après lequel le pays semble être de plus en plus isolé en Amérique latine.
Oui, la presse d'opposition relate le refus effectivement de plusieurs pays latino-américains de reconnaître les résultats du scrutin de la République dominicaine au Pérou, en passant par la Colombie. Ses gouvernements rejette une simulacre d'élection, écrit le site d'information confidentielle. Daniel Ortega a été effectivement réélu dimanche dernier avec officiellement plus de 75% des voix, mais des ONG locales estiment que le taux d'abstention atteignait en fait 80%.
Et malgré tout, certains pays de gauche, gouvernés par la gauche, ont félicité l'ancien guerrier sandiniste.
Oui, c'est le cas de Cuba, de la Bolivie ou encore du Venezuela. Le président Nicolas Maduro a qualifié la victoire de Daniel Ortega d'historique, c'est-à-dire sur le site de la chaîne Télésur, le journal en ligne confidentiel, a pour sa part recueilli les témoignages de Nicaraguayens qui ont décidé de bouder les urnes et de voter nul ou de voter nul. C'était leur façon de protester contre ce qu'ils appellent un scrutin frauduleux, écrit confidentiel. Selon le site d'information, les opposants interviewés n'ont pas beaucoup d'espoir quant à l'avenir du pays. Ils pensent que le gouvernement ne pourra pas résoudre la crise économique qui, selon eux, va empirer et pousser encore plus de Nicaraguayens à l'exil.
Déjà au moins 100 000 personnes en exil. Pour finir ensemble à Rime, vous nous emmenez au Brésil où le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a décidé de rejoindre un nouveau parti politique.
C'est en une du journal O Globo. Jair Bolsonaro a quitté le parti social-libéral PSL qui lui avait permis, rappelez-vous, de remporter les élections de 2018 et se tourne maintenant vers le centre droit. Il devrait rejoindre le parti libéral PL. Ce n'est pas encore officiel, écrit Folha de São Paulo, mais l'adhésion devrait se faire dans une dizaine de jours. Une démarche poussée par le président de ce parti qui est, lui, condamné pour corruption et actuellement emprisonné. D'après Folha, certains responsables du parti ne voient cependant pas d'un bon œil l'arrivée de Jair Bolsonaro. Il menace déjà de quitter la formation, estimant que l'adhésion du président d'extrême droite à leur parti fera fuir les électeurs.
Jair Bolsonaro, merci beaucoup à Rim Lipold, qui a boudé la COP26.
RFI. La radio del mundo.
La conférence sur le climat qui se termine en fin de semaine à Glasgow en Écosse. À cette occasion, je vous propose de découvrir une initiative qui réconcilie enjeux environnementaux et inégalités. Deux problématiques, on le sait, intimement liées. On est à Rosario, en Argentine, au nord de Buenos Aires. Une ville qui a lancé en 2001 un programme d'agriculture urbaine permettant à des centaines de familles défavorisées de cultiver écologiquement leurs propres aliments. 20 ans plus tard, c'est un succès internationalement reconnu et 40 hectares de Rosario sont maintenant dédiés à ces potagers communautaires. Reportage Théo Conscience.
C'est un îlot de verdure coincé entre la voie rapide et le quartier de La Tablada, l'un des plus défavorisés de Rosario.
Ici, on a 20 familles. Chacun a un morceau de terre. On a 800 mètres carrés en tout. Et ils produisent des légumes sans produits agrochimiques. Tout est naturel.
Damien Barbiero est le coordinateur de ce jardin potager, le plus vieux des 7 que compte la ville. Tous ont été installés sur des terrains inoccupés, anciennes friches ou décharges, convertis par la ville en espace d'agriculture urbaine à partir de 2001, au moment où la crise économique faisait exploser la pauvreté et le chômage en Argentine.
Les gens viennent pour travailler, produisent leurs propres aliments et en plus, ils les vendent sur le marché. En plus de consommer des produits naturels, ce qui est bien, c'est que les gens travaillent et touchent un salaire.
Un chapeau pour se protéger du soleil et un tuyau à la main, Roman Maidana arrose sa parcelle. Ici, on ne produit que des légumes de saison.
Regardez, on a de la roquette, de la ciboulette, des oignons nouveaux, des betteraves, des choux. Bientôt, ça va être l'époque des courgettes et des potirons.
Autant de produits que cet habitant du quartier vend ensuite sur les marchés du centre-ville, créés par la municipalité pour qu'un maximum d'habitants puissent avoir accès à des légumes frais, libres de tout pesticide. Un peu plus loin, à l'ombre d'un arbre, Norma donne des instructions à l'un de ses fils, qui plante des courges. Elle préfère ne pas vendre ce qu'elle produit sur son lopin pour le garder pour sa famille.
J'ai un enfant qui a un problème de santé. Il ne peut manger que des produits organiques, sans produits chimiques ou quoi que ce soit.
Depuis ses débuts il y a 20 ans, le programme d'agriculture urbaine de Rosario poursuit un double objectif. Offrir du travail et de la nourriture à des personnes défavorisées, tout en faisant des acteurs de la lutte environnementale. Ceux qui travaillent ici, comme Roman et Norma, ont été formés par des ingénieurs agronomes comme Johan Dulong, qui supervise ce jour-là un atelier avec 4 jeunes filles.
On va faire une association de basilic et de tomates. Ce que l'on cherche, c'est faire des associations bénéfiques entre espèces pour respecter les cycles des sols.
En plus des 7 jardins partagés, la ville soutient également la création de potagers individuels ou familiaux. Avec 12 mètres carrés d'espace vert par habitant en moyenne, Rosario est la ville la plus végétalisée d'Argentine. Une proximité à la nature qui ne se limite pas aux beaux quartiers, se félicite Pablo Nassimuroa, sous-secrétaire au développement et à l'habitat de la municipalité.
Les jardins potagers sont dans des lieux très compliqués socialement. Il y a celui de la Tablada, du foyer espagnol ou celui du bois, qui sont dans des endroits très complexes sur le plan social, politique et économique.
Avec 2500 tonnes de fruits et légumes produits localement chaque année, les potagers communautaires favorisent également les circuits courts et réduisent donc les émissions de gaz à effet de serre liées aux importations. La ville a même récemment lancé le programme Ceinture Verte pour récupérer 70 hectares de terres agricoles autour de la ville.
Sur le périurbain, le problème, c'est que l'on doit récupérer des terres qui ont été soumises à la monoculture ou qui ont été traitées aux produits agrochimiques de manière permanente.
20 ans après sa création et alors que l'Argentine traverse depuis 4 ans une nouvelle crise économique, le programme d'agriculture urbaine de Rosario continue donc de se développer en conciliant impératifs écologiques et lutte contre les inégalités. Théo Conscience, Rosario, RFI.
10h21 à Rosario, 2h de moins à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La capitale haïtienne, où nous attend Godson Pierre, le rédacteur en chef du site Alter Presse. Bonjour.
Bonjour, Michael.
À la une, ce mardi, la visite du secrétaire d'État adjoint américain aux affaires internationales des stupéfiants et de l'application des lois. Il s'agit de Todd Robinson. Il est arrivé hier. Il reste jusqu'à demain, mercredi. Pourquoi faire, Godson?
Eh bien, Todd Robinson doit se pencher sur la question de la sécurité de plus en plus problématique en Haïti. Les États-Unis réaffirment à l'occasion de cette visite que l'une de leurs plus grandes priorités est d'aider à œuvrer pour une Haïti plus pacifique. Todd Robinson rencontre le premier ministre de facto Ariel Henry, le titulaire par intérim du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Lee Skeetel, qui occupe aussi le poste de ministre de l'Intérieur, le nouveau directeur général par intérim de la police, Franz LB, sur qui pèsent d'ailleurs des soupçons de violation de droits humains, ainsi que d'autres partenaires des Américains en Haïti.
Et cette visite, elle intervient, Godson, dans une situation évidemment toujours marquée par les violences et les kidnappings. Ce week-end, par exemple, 2 personnes encore ont été tuées dans le quartier de Martissan, à l'ouest de Port-au-Prince, toujours contrôlé par les gangs.
Eh bien, d'abord, en parlant de kidnapping, rappelons que parmi les personnes enlevées et séquestrées ces dernières semaines figurent 16 Américains et 1 Canadien. Ils sont toujours gardés par le gang 400 Maruzo en périphérie de la capitale. Et la zone de Martissan demeure, quant à elle, pratiquement un no man's land. On s'y aventure à ses risques et périls. Les gangs opèrent ouvertement et on ne remarque aucune présence policière. Alors que le sang ne cesse de couler, les kidnappings se multiplient aussi dans cette zone. Une attaque armée contre un véhicule privé a fait, en effet, dans la matinée de samedi, au moins 2 morts et des blessés par balle à Martissan.
Attaque aussi contre les convois de camions pétroliers. Godson, tout ça, on le sait, ça aggrave la crise énergétique en Haïti avec des conséquences dramatiques.
Oui, il y a même un rapport étroit entre l'insécurité et la pénurie d'essence, puisque, comme vous le dites, les gangs bloquent les voies d'accès aux terminaux pétroliers et empêchent la distribution de l'essence qui se vend au marché noir. Et faute d'énergie, entreprises, bureaux et services, y compris des banques, sont contraints de réduire ou de suspendre leurs activités. Les prix des transports en commun ont considérablement augmenté. Les produits de première nécessité comme l'eau et le pain viennent à manquer. Les écoles fonctionnent au ralenti, les hôpitaux sont en difficulté, les rues sont clairsemées. Bref, Haïti est comme un pays qui se meurt.
Godson Pierre, tout ça est à lire sur votre site Alter Presse. Merci, on va terminer sur une note plus réjouissante avec ces embrassades et ces cris de joie hier à l'aéroport de New York. Après 20 mois de fermeture à cause bien sûr du Covid, les États-Unis ont rouvert leurs frontières terrestres et aériennes aux voyageurs internationaux vaccinés. Loubiana qui a rencontré quelques-uns d'entre eux à l'aéroport JFK.
Il y a encore 8h30, j'étais sur Paris. Et là, vous arrivez, vous avez des taxis jaunes, je sais pas, c'est, C'est incroyable.
À la sortie de l'aéroport, Étienne Atea a du mal à cacher sa joie. Lui qui avait l'habitude de faire des allers-retours réguliers vers les États-Unis pour acheter des objets typiques américains et les revendre, il avait hâte de revenir.
Je vais aller chiner des plaques d'immatriculation, de la déco américaine authentique. Je vais aller un petit peu partout. C'est génial.
Depuis hier, les voyageurs européens notamment sont à nouveau admis sur le sol américain à condition d'être vaccinés et de présenter un test PCR négatif. Une levée de restrictions qui a permis à certaines familles de pouvoir enfin se retrouver. Catherine vient voir son fils.
Ça fait 2 ans et demi qu'il est là et on n'a pas pu venir. On attendait ça avec impatience, la réouverture des frontières. Ouais.
La réouverture des frontières signifie aussi la venue des touristes comme Julien à New York en lune de miel.
On va faire des trucs qu'on n'a pas fait depuis longtemps, des comédies musicales, aller au restaurant, visiter des endroits qui nous manquent un petit peu, le Met, tout ça et tout, ça va être cool.
Le retour des voyageurs internationaux devrait aussi faire du bien à la ville de New York où l'industrie du tourisme a été durement touchée. Hier, le message « Welcome back world », « Bienvenue au monde » était affiché en grand à Times Square. Loubna Anaki, New York, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
On enchaîne avec vous Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Les craintes du bâtiment guadeloupéen, le secteur Benoît en redoute la disparition pure et simple d'un grand nombre d'entreprises.
Eh oui, hausse proprement hallucinante, je cite, du prix des matériaux, hausse tout aussi exponentielle des coûts du transport maritime. Bref, certains professionnels du secteur du BTP guadeloupéen affirment que de nombreuses entreprises vont mettre la clé sous la porte et très vite. Écoutez Philippe Cholette, chef d'entreprise, il est au MEDEF Guadeloupe, il est au micro de Ronan Poney.
Quand je vois que le prix des matières premières est en train d'exploser, vous savez, nous on a subi donc le prix du café, le prix de l'aluminium, le prix du plastique, tout augmente. Je veux changer un hub d'électronique, il a doublé de prix. Je suis inquiet parce qu'on a 30% de population qui est chômeur aujourd'hui. Je ne sais pas comment va passer l'année parce qu'on est toute petite économie. Si je prends le cas de mon cas, mon chiffre ne va pas augmenter de 50% parce que je vais augmenter de 50%. Donc ça veut dire qu'il va falloir ajuster et serrer la ceinture. Mon souci, c'est que je ne sais pas pour combien d'années. On me dirait, la crise va passer, il y en a pour 6 mois et puis il faut tenir. Ouais, sauf que dans toutes nos entreprises, petites entreprises guadeloupéennes, dans 6 mois, on va tous commencer à rembourser les prêts qu'on avait fait pour tenir pour Covid, avec un chiffre d'affaires qui va plonger. Donc oui, je ne sais pas où on va et j'avoue que je suis très inquiet.
Un tout autre sujet maintenant, direction la Martinique. L'exposition à la chlordécone augmente-t-elle le risque de développer un cancer de la prostate? La question, grave, est posée depuis longtemps et une étude prévue pour durer 5 ans va tenter enfin d'y apporter une réponse. Alain Livory.
Le programme de recherche s'appuiera sur 4 groupes de travail. Le premier sur la responsabilité de Clarisse Joachin, directrice du registre des cancers de Martinique, portera sur l'étude des données préexistantes entre 2010 et 2019. Le deuxième groupe de travail, dirigé par Florence Ménégo, chercheur à l'INSERM, mettra en place une nouvelle étude épidémiologique qui sera lancée en Martinique. Le troisième groupe de travail sur la responsabilité conjointe de Malcolm Ferdinand et Sarah Aguiton, tous deux chercheurs au CNRS, évaluera en Martinique et en Guadeloupe l'expérience individuelle et collective de la contamination par les pesticides, dont la chlordécone. Et enfin, le quatrième groupe de travail, sous la responsabilité du professeur Gaël Fromont, professeur des universités à l'INSERM et à l'université de Tours, évaluera entre autres la distribution de la chlordécone dans le sang, dans les tissus gras et les tissus de la prostate. Tous les ans, un point d'étape sera réalisé par les chercheurs.
Étude à l'initiative de l'Institut du cancer. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui refermait ce rendez-vous d'Haïti des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve demain et en attendant, vous pouvez commenter l'actualité sur nos réseaux sociaux et nous réécouter sur RFI Pure Radio.
RFI, la sélection du mois. Pongo.
De Paris à Saint-Domingue, tu vois, je suis dingue.
RFI. 7 milliards de voisins.